Chapitre 11.
Alors, monsieur Gardeau, l'aide-soignante me signale que vous n'avez pas touché à votre plateau. Malgré son âge, il baisse les yeux comme un enfant pris en faute. Pardon, mademoiselle, je n'ai vraiment pas faim. Vous n'aimez pas la blanquette? La blanquette n'y est pour rien, c'est l'appétit qui manque. On vous laisse au moins le dessert pour plus tard? Il ne répond pas. Je fais signe à ma collègue des repas de débarrasser son plateau et j'ajoute d'une voix plus douce. Vous devez reprendre des forces, monsieur Gardeau. Le docteur envisage votre transfert en rééducation. Il faut que vous soyez en forme. Il n'a pas l'air de considérer l'idée de quitter le service comme une bonne nouvelle. Monsieur Gardeau est arrivé ici pour une hanche cassée. 63 ans, c'est jeune pour ce genre de problème, mais il n'y a pas de règle. Je l'ai tout de suite remarqué avec son air de chien battu. Je dois y être particulièrement réceptive. Chez nous, quand on désigne un patient autrement que par son numéro de chambre ou sa pathologie, c'est déjà qu'on lui témoigne un petit attachement. J'ai mémorisé son nom dès le lendemain de son opération. J'ai mis par contre quelques jours à comprendre un de ses comportements, que je trouve attendrissant. Il me joue le même tour à chaque fin de repas, comme maintenant. Osant à peine croiser mon regard, il attend que je lui demande ce qu'il a regardé à la télé. C'est un sujet de conversation facile avec les malades quand on leur prodigue les soins, mais lui a fait de ce bref échange un rituel. Dès que je pose la question, il s'anime et se montre bien plus loquace que d'ordinaire. Je le soupçonne même de ne suivre certains programmes que pour alimenter ce contact. L'autre jour, il m'a interrogé sur ce que j'appréciais sur le petit écran. Et j'ai machinalement mentionné une série policière. L'après-midi même, il était devant. Il ne manque plus aucun des épisodes multi-rediffusés. Ensuite, il me parle des personnages, de ce qui leur arrive. J'ai beau être perdu dans les intrigues qui se ressemblent toutes, je joue le jeu en m'intéressant. Je prends le temps de l'écouter, même si le nombre de patients à gérer dans le service nous pousse à ne jamais nous attarder. Je lui trouve quelque chose d'émouvant. Bien que partageant l'intimité de leur vie, on sait finalement peu de choses des gens que l'on soigne. Ils atterrissent un jour dans une de nos chambres, sans que l'on sache rien de leur histoire. Un nom, une date de naissance, une pathologie, quelques antécédents médicaux le cas échéant, un diagnostic et des soins. Riches ou pauvres, à l'hôpital, ils finissent tous habillés pareil, débarrassés de leur enveloppe sociale pour n'être plus vêtus que de leur humanité et d'une tenue standard. Quelle que soit la cylindrée de leur voiture, ils se déplacent tous en lit ou en fauteuil roulant. Le professeur Sigeri, un chirurgien que j'apprécie beaucoup, défend une théorie selon laquelle c'est vraiment mieux ainsi. Parce que l'on voit passer tout le monde ici, absolument tout le monde. Les crapules, les gens bien, les victimes, les bourreaux, les pires crétins, sans parler des âmes cabossées. Le professeur estime que nous sommes un port franc dans les tempêtes que subissent les gens sur leur océan personnel. On les accueille tous pour réparer les avaries avant qu'ils ne reprennent la mer, sans poser de questions. Je suis d'accord avec lui sur le fait que, si on laissait notre ressenti affectif interférer avec notre mission, nous ne serions plus à même de la mener à bien objectivement. Parce que, soyons clairs, si la plupart des patients sont corrects et donnent envie de se démener pour les sortir de la panade, quelques-uns sont suffisamment infréquentables pour déclencher des vocations de tueurs à gages. Même si on n'a pas le droit de faire de différence, certains sont bouleversants alors que d'autres sont puants, au point que s'ils n'étaient pas déjà malades, on serait tenté de leur inoculer la peste et le choléra à la fois pour être vraiment certain d'en débarrasser la planète. C'est humain. Dans l'équipe, entre nous, on rigole des pires et on se souvient des meilleurs. Monsieur Gardeau est un de mes chouchous. On lui a trouvé un voisin de chambre sympa avec qui il peut discuter. Comme souvent, je me suis demandé à quoi pouvait ressembler sa vie de famille. Il semble si gentil. J'ai guetté sa femme, ses enfants ou ses proches, mais personne n'est venu lui rendre visite, à part un copain de son âge qui, étant donné son état, ne devrait pas tarder à séjourner dans le service qui traite des personnes liées à l'alcool. L'heure tourne. Obligé d'abandonner Monsieur Gardeau, je quitte sa chambre pour enchaîner. C'est alors qu'à l'extrémité du couloir, j'aperçois la nouvelle étudiante infirmière, Soraya, qui se tient comme un flamant rose en équilibre sur une jambe, l'autre repliée, les yeux fermés et les mains jointes au-dessus de sa tête. Je m'approche sans bruit, elle respire profondément, avec régularité. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle ouvre les yeux sans rien bouger d'autre. « Du yoga !» Tu as bien raison. En pleine tournée des soins, c'est le bon moment. D'ailleurs, tout le monde fait le lotus dans le couloir. Ah bon? Bien sûr. Il y en a même qui font la bête à deux dos dans le local technique. Je ne connais pas cette figure. Je ne dois pas être encore assez avancée dans ma progression. J'arrête de plaisanter. Sans rire. Soraya, évite ça, ou alors va au moins dans la salle de détente. T'as raison. Mais là, il fallait que je décompresse d'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'aller changer la perfusion de la 14. J'ai un rire nerveux. Tu ne connaissais pas encore la femme piranha? La femme piranha? C'est Caroline qui la surnomme comme ça. Des gros yeux globuleux, toujours prête à te déchiqueter si tu l'approches, et la moindre goutte de sang la rend folle. Cette femme est méchante. Excellent diagnostic. Quel est son problème cette fois? L'oreiller n'est pas ergonomique. Les draps font du bruit, sa voisine ronfle, on n'a pas le câble. La salle de bain est minuscule et il n'y a pas de miroir grossissant. Elle m'a aussi jeté au visage que c'était ses impôts qui me payaient. Ne te bile pas, Soraya. Il y en a des comme ça de temps en temps. Tu en rencontreras qui se croient à l'hôtel et qui nous prennent pour leur larbin. Si elle n'est pas contente, dis-lui d'aller se faire soigner dans une clinique à Monaco, mais qu'elle n'oublie pas sa carte bleue. La pauvre semble sincèrement éprouvée. Elle a commencé voilà à peine une semaine. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle a vraiment la vocation et qu'elle est adorable. Mais sa naïveté nous étonne toutes. Étais-je aussi vulnérable à mes débuts? Me serais-je endurcie sans m'en rendre compte? Ne le prends pas personnellement. L'autre jour, elle a incendié Caroline parce qu'elle trouvait ses cachets trop gros. Comment arrivez-vous à garder votre sang-froid face à de tels comportements? Moi, je m'enfuis dans ma tête sur la colline pour aller voir les lapins avec mon grand-père. Elle a l'air gênée. C'est vrai que, présentée comme ça, je ne suis plus crédible pour l'empêcher de faire le lampadaire javanais au milieu du couloir. J'ai entendu dire que tu t'étais fait remonter les bretelles par le docteur Moellner, dit-elle, changeant de sujet. Il faut bien qu'il passe ses petits nerfs sur quelqu'un. C'est tombé sur moi. Quand ton prénom, c'est Gontran, tu as de quoi être en rogne contre la terre entière. Elle rit, j'ajoute. Méfie-toi de tous ces mouvements d'humeur. N'hésite pas à venir me parler si tu en as besoin. Elle sourit, rassurée. Tu es gentille. Tristan aussi est gentil. Il fait attention à moi. Que dois-je répondre? La vérité? Beauté en touche? Simuler un accouchement d'oiseau? Ou alors lui parler des licornes? Qui lèche les extincteurs et que je suis la seule à voir ?